Bon, rebonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette quatrième et dernière session avant la table ronde de la journée, session qui s'intitule « L'illusion de la neutralité, la réflexivité des chercheurs-chercheuses face à leur terrain d'enquête ». Alors, en l'occurrence, il s'agira de la réflexivité des chercheuses, puisqu'on a deux intervenantes aujourd'hui, que je présente dès le début et à qui je céderai la parole. Dans un premier temps, Elif Jan, qui est donc doctorante à l'ENS Lyon, en co-direction avec Christine Détrez et avec un co-directeur à l'université de Galatasaray à Istanbul. Et dans un second temps, on écoutera Delphine Chedaleux, qui est docteur en cinéma et audiovisuel et post-doctorante à l'université de Lausanne. Je laisse tout de suite la parole à Elif Jan.
Bonjour à toutes et à tous. Merci, un grand merci aux organisateurs et aux organisatrices. Alors, ma contribution au colloque sera plus d'ordre épistémologique et méthodologique. Et dans un premier temps, je souhaite vous fournir un bref état de l'art de la littérature sur la réflexivité en sciences sociales. Et dans un deuxième temps, je souhaite me focaliser sur ma propre expérience de terrain que j'ai menée dans le cadre de mon M2 quand j'étais masterante à l'ENS de Lyon. Et mon objectif pour cette communication est loin de fournir une description... Mon objectif est loin de fournir une description de ces expériences, mais à travers ces expériences, je souhaite dégager des questions épistémologiques sur la situation d'enquête et plus précisément sur une potentielle reproduction des effets de la légitimité culturelle et des rapports de domination qui se reportent aux rapports de classe et genre et âge. Et pour le dire vite, au-delà des nécessités déontologiques qui se concrétisent de plus en plus au travers des protocoles de recherche et des comités éthiques et en sciences sociales, un retour réflexif sur les procédés d'enquête, les conditions concrètes dans lesquelles les matériaux sont recueillis, et la restitution finale de ces matériaux est aujourd'hui un impératif scientifique reconnu. Si longtemps en sciences sociales, dans le silage de la neutralité axiologique de Weber, les chercheurs et les chercheuses avaient tendance à s'effacer dans l'écriture et de surtout ne pas parler de soi-même, la restitution de l'expérience de terrain et l'objectivation des conditions d'enquête sont désormais devenues, en mettant en question les propriétés sociales de la personne qui fait l'enquête. L'ouvrage de Delphine Naudier, qui est paru en 2011, est né en fait de ce souci d'objectivation et de mettre en place une réflexivité sur l'engagement des chercheurs et des chercheuses et les impacts éventuels de leurs inscriptions sociales sur les connaissances mises en œuvre. Et bien plus tôt, en fait, Bourdieu, dans son ouvrage « Esquisse pour une auto-analyse », avait l'objectif de restituer sa propre trajectoire. Devenu aujourd'hui classique, il y a des articles comme « S'imposer aux imposants » et « Le psychiatre, la boulangère et la sociologue analysant un refus de terrain de dans le monde » cherchent à restituer aussi l'expérience de terrain pour s'en servir comme un levier des rapports de pouvoir qui sont présents dans le terrain d'études. Ces articles m'ont beaucoup aidé à ma propre restitution de l'enquête de terrain aussi. Ainsi, Magali Boumaza, qui est enseignante à l'Université Galatasaray, fournit des éléments de réflexion sur la confrontation des propriétés sociales des chercheurs et des chercheuses avec leurs interlocuteurs et interlocutrices dans une enquête au sein de l'EFN. Dans la même ligne, Avanza, avec un objet d'étude très proche, elle avait traité de la confrontation des opinions politiques dans le cas d'une enquête ethnographique au sein d'un parti d'extrême droite italienne. Tous ces travaux sont très intéressants, m'ont beaucoup aidé au moment de construction de l'objet quand j'étais en master. Mais en fait, pourquoi la réflexivité? À quoi ça sert la réflexivité dans une enquête? Moi, je reprends les mots d'Elias pour le dire. Si on parle des individus ou des groupes sociaux que l'on étudie, l'objectif serait d'apprendre plus sur ces derniers que ses propres disciplines. Dans ce sens-là, en fait, il ne s'agit pas d'une méthodologie qui a pour l'objectif de nous annoncer sur nos propres expériences de terrain, mais le souci est bien épistémologique dans le sens où nous cherchons à mieux comprendre des catégories sociales auprès desquelles nous enquêtons. Et... l'objectif est aussi réfléchir sur les biais qui surgissent de la relation même de l'entretien en vue de pouvoir les éviter. En l'occurrence, je me focalisais sur les relations d'entretien qui est traversée par des rapports de force très particuliers entre l'enquêteur et l'enquêtrice. Et ma communication, en fait, dans les lignées des travaux que j'ai mentionnés tout à l'heure, se propose d'ouvrir des pistes de réflexion sur le rapport du pouvoir et la distance sociale et symbolique entre les enquêtés et leurs enquêteurs dans les situations d'enquête, aussi bien que dans le travail de restitution des matériaux recueillis. Et dans ce sens-là, je cherchais à restituer mes premières expériences d'enquête auprès des élèves de lycée issus des classes populaires rurales dans le cadre de mon M2. Et en fait, ma problématique de recherche porte sur la réappropriation de l'histoire locale sur une île qui se trouve, qui est située au nord de la mer Égée en Turquie. J'avais choisi ce terrain d'étude par le biais de la particularité de son histoire locale qui est traversée par des histoires de déportation et des flux migratoires très très forts. Et j'ai mené ma recherche de terrain dans un souci de comprendre les effets socialisateurs auxquels les élèves sont confrontés. Je cherchais à saisir la perception des élèves et la reconstruction des histoires locales et nationales et l'articulation de ce type de connaissances qui est enseignée à l'école qui serait peut-être transmise dans le cadre familial. Et en m'inscrivant dans une approche dispositionnaliste, j'ai été dans la sociologie de la réception culturelle. Mon échantillon était composé par 21 élèves et 3 enseignants d'histoire. Et pour accéder aux élèves, j'ai d'abord interviewé les profs d'histoire pour pouvoir comprendre leur pratique d'enseignement, leur point de vue sur les élèves. Et il m'a fallu d'abord négocier des entretiens avec eux pour pouvoir accéder aux élèves, pour qu'ils deviennent intermédiaires avec eux. Juste pour parler en fait de la particularité de mon objet d'étude, j'ai bien intitulé la communication de la légitimité culturelle. Il faut dire qu'en fait, je tiens à préciser la particularité de l'histoire qui est considérée comme la discipline reine entre guillemets en Turquie, qui se trouve au sommet de la hiérarchie parmi les disciplines en sciences sociales et sciences humaines. Les historiens sont souvent sollicités à prendre la parole dans le débat public, non seulement en matière de connaissances qui se reportent au passé, mais aussi pour traiter des sujets d'actualité politique discutés sous l'angle des approches historiques. Donc l'histoire bénéficie d'une très forte légitimité culturelle parmi les disciplines des sciences sociales, notamment pour ses usages politiques. Elle est donc, entre guillemets, une affaire sérieuse qui produit des effets socialisateurs très genrés, dans le sens où l'intégralité des élèves que j'ai interviewés m'ont affirmé que leur mère ne s'intéressait pas à la politique et ne suivait pas les débats qui se reportent au passé ou les débats que j'ai mentionnés tout à l'heure qui sont discutés sous l'angle de l'histoire. Et en fait, il s'agit d'une forme de transmission très particulière entre le père et le fils en termes de connaissances qui se reportent au passé. Toutefois, en tant que matière scolaire, elle a un statut très particulier. Elle est dans le programme de concours national d'entrée à l'université, mais elle n'est pas aussi importante que, entre guillemets, toujours, que les mathématiques ou les matières scientifiques comme la chimie et la physique. Certains élèves qui ont des résultats très bas en la matière manifestent un malaise, surtout un sentiment d'illégitimité assez énoncé sur des sujets historiques. Ce sentiment d'illégitimité va de pair avec une forte dévalorisation de leurs connaissances, même lorsqu'elles sont factuellement correctes. À chaque fois, en fait, qu'un élève qui mobilise une connaissance historique me demandait une confirmation pour savoir si ces connaissances étaient correctes. Développer le goût de goût ou de goût, mettre la distance en adoptant un discours du type « ce n'est pas pour moi » ou encore manifester un sentiment d'illégitimité pour en parler, se manifeste dans les situations d'entretien à travers des énoncés, mais aussi des petits gestes comme sifflement, regard ailleurs, qui sont petits mais significatifs à la fois. L'emploi du mot légitimité culturelle que j'ai indiqué dans le titre, on voit bien aussi une valorisation inégale des produits culturels, des rapports de domination qui symboliques qui se configurent autour des pratiques culturelles. Par contre, il faut nuancer par ce que l'on entend par le sentiment de légitimité culturelle, comme le souligne Lahir dans son ouvrage intitulé « La culture des individus », présupposer que les acteurs sociaux aient nécessairement une indignation en ce qui concerne leur pratique scolairement et tout socialement moins légitime serait une erreur sociologique, parce que l'espace social a un caractère parcellaire et il est traversé par une pluralité des normes. Tous les individus ne connaissent pas et ne reconnaissent pas les mêmes normes dans la même intensité. À titre d'une critique adressée aux travaux de Bourdieu et Passeron sur l'école et la culture, ce postulat m'a beaucoup servi dans l'appréhension des perceptions des élèves vis-à-vis de leur pratique culturelle. Les élèves qui se déclarent, par exemple, pas très intéressés par l'histoire n'avaient pas tenu le même type de discours. Certains élèves, notamment, il y avait des filles qui s'appuient sur le caractère militaire de l'histoire enseignée qui est en Turquie, qui est une histoire très militaire et événementielle, mettaient une distance ostensible. Par exemple, une fille que j'avais interviewée avait affirmé que son unique souci en ce qui concerne l'histoire était de pouvoir répondre aux questions du concours. Sinon, pour elle, l'histoire, c'est que des guerres, c'est très chiant. Je ne comprends pas pourquoi il y a tant de guerres dans le passé, pourquoi les pays n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes autrement. Enfin, pas que dans le passé, aujourd'hui encore, il y a des guerres dans le monde. En fait, c'est un enseignement très intéressant dans le sens où se relève à la fois la modalité d'enseignement qui est basée sur une histoire militaire, de l'autre côté, sa prise de position par rapport à l'histoire enseignée, et encore, en fait, elle fait des liens avec les sujets d'actualité. Or, inversement, certains élèves ont manifesté un malaise de ne pas bien connaître son histoire, entre guillemets, et ce type de discours faisait référence à un impératif moral de connaître le passé de ses ancêtres. Ceux qui ne sont pas bons en histoire se trouvaient dans une ignorance dont il fallait avoir honte pour eux. Et en fait, la question ici, c'est qu'on peut se demander si ce sentiment d'illégitimité culturelle est un biais qui surgit de la situation même de l'entretien, justement lié au fait d'être interviewé sur un sujet qui est lié à l'histoire, c'est-à-dire un simple effet contextuel, où il correspond à un phénomène récurrent manifeste dans la société globale, mais je trouve qu'il n'est pas vraiment évident de pouvoir y répondre. Moi, je n'ai pas pour l'instant des réponses précises, parce que je continue dans ma thèse encore sur le même type d'entretien. Mais dans tous les cas, poser des questions sur des pratiques culturelles classées savantes, scolairement et tout socialement légitimes aux élèves issus de classes populaires exige une vigilance contre un potentiel renforcement des stigmates d'illégitimité culturelle. La caractéristique des conversations avec certains élèves était la suivante. Est-ce que tu vas au cinéma? Non. Est-ce que tu as envie de dire non? La répétition de ce type de réponse relève plusieurs aspects relatifs à l'usage de l'entretien, ainsi que la distribution inégale des pratiques culturelles, le désintérêt, dans certains cas le souci de ne pas dire des bêtises en face de l'enquêtrice, ou encore le sentiment d'illégitimité culturelle dont je parlais depuis tout à l'heure. Et dans un souci de ne pas reproduire une violence de classe et ne pas tomber dans des biais légitimistes, j'ai intégré, pas seulement pour ça, mais j'ai intégré dans mon guide d'entretien des questions qui se reportent aux pratiques sociales scolairement moins reconnues, comme j'ai des vidéos et la télé. Et ça marchait plutôt bien. Et un autre biais qui surgit de l'entretien, en fait, c'était la barrière de l'âge. En 2015, en tant que master à l'ENS de Lyon, je suivais l'atelier de recherche intitulé « Genre et culture scientifique » co-animé par Christine Détré et Clémence Perronnet. Dans ce cas, nous avions travaillé sur la culture scientifique des élèves en collège issus de milieux défavorisés à Lyon, sous l'angle du rapport de genre. Et les réflexions qu'on avait mobilisées dans le cadre de cet atelier était aussi en orientation de dépasser les biais provenant de l'âge des enquêtés. Ces réflexions, en fait, m'ont ultérieurement beaucoup aidé à développer mon guide d'entretien dans le terrain. Même si, en fait, la barrière de l'âge dont je parlais est moins visible dans mon cas, puisque j'ai interviewé des élèves de 13 à 17 ans, et la situation d'entretien n'est égale la même avec celle qui apparaît lorsqu'on est amené à interviewer un individu adulte. Et dans ce sens-là, les questions méthodologiques sur lesquelles on travaillait nous a amené à nous servir d'un portrait chinois avec des questions du type « si tu étais une couleur, un animal, tu serais quoi ?» une célébrité, pour mettre à l'aise l'enfant. Et j'ai ajouté des questions aussi qui sont en lien avec mon sujet, tel que « si tu pouvais voyager dans le temps, tu aimerais aller au passé ou au futur ?»« Quelle époque et pourquoi ?»« Si tu étais un personnage historique, tu serais qui ?» Ça m'a permis de comprendre toutes les identifications que les élèves au personnage historique. Et commencer avec un jeu m'a permis de faire une transition douce entre les consignes et les thèmes que je souhaite aborder, ainsi réduire la distance symbolique qu'on a avec les élèves. En fait, ce type de distance est redoublé lorsqu'on passe par les enseignants des élèves, ce qui est dans mon cas, pour les interviewer. Et en fait, ceci a un fort risque de se faire prendre une complice du corps professoral qui vient effectuer un contrôle de connaissances. Et c'est pour ça que la question de trouver sa place, une fois entré dans l'institution, est un véritable enjeu. J'ai notamment bénéficié du statut étudiant qui vient demander d'aide pour une tâche scolaire. Et mon capital scolaire, mes familiarités avec l'institution scolaire m'ont certainement facilité l'échange avec des enseignants. Et les établissements scolaires que j'ai fréquentés étant hautement sélectifs, en fait, leurs profils de recrutement ne sont pas socialement neutres. Et surtout, le fait de faire des études à l'étranger était quelque chose qui est socialement situé. Donc, la simple évocation de métier scolaire était donc double tranchant. À la fois, un élément qui suscite le respect et une aspiration de la part des élèves, et une domination symbolique pour la plupart de mes interlocuteurs et interlocutrices, puisque pour eux, en fait, l'accès à ces institutions est statistiquement peu probable. Donc, je constituais le contre-exemple pour les élèves en difficulté et le modèle à suivre pour d'autres, notamment pour des filles qui ont des fortes aspirations scolaires, comme ceci est montré par plusieurs sociologues comme Christian Baudelet et Sablé à propos du succès relatif des filles dans les milieux populaires. En fait, pour dépasser en fait, ce type de distance, je me suis notamment servi du statut de boursière comme un moyen d'équilibre ce type de domination de classe provient d'une appartenance supposée, qui n'est pas vraiment le cas. Ceci, en fait, laissait entendre que je ne suis pas héritière au sens de Bourdieu et Pastron. C'est dans ce sens-là que j'ai pu dépasser ce type de difficulté. Et du côté des enseignants, l'enjeu était différent, parce que des enseignants d'histoire, comme j'ai déjà parlé tout à l'heure, s'appuyaient vraiment la légitimité de la discipline historique pour mettre en interrogation mon appartenance disciplinaire pour pouvoir travailler sur un objet qui n'est pas le mien. Pour certains, le fait que je ne suis pas historienne de formation délégitimait l'enquête que je menais. Il était donc très difficile d'inverser cette relation qui est très asymétrique avec les profs d'histoire. Et j'ai notamment mobilisé les connaissances historiques que j'avais pour ce faire. Donc, ce statut d'étudiant m'a donc beaucoup aidé à mieux communiquer avec les élèves, tandis qu'il accentuait le rapport de domination qui existe objectivement entre le prof et l'étudiant. Pour me familiariser avec les élèves, je me suis fortement appuyée sur notre expérience commune, qui est le processus de préparation du concours national d'entrée à l'université. Jusqu'ici, je vous ai parlé des rapports de domination et des effets potentiels de la reproduction des légitimités culturelles. Toutefois, en fait, il faut souligner que les rapports de domination dans les situations d'entretien ne sont pas nécessairement une simple transposition de ceux qui sont présents dans la société globale. Par exemple, deux garçons que j'avais interviewés ont manifesté des attitudes plutôt viriles, mettant en question la légitimité de mon enquête en me posant des questions telles que « Pourquoi une telle question ? Pourquoi ça vous intéresse ? Pourquoi vous êtes venu à l'école ?» Et c'était parfois des expériences un peu violentes. Ceci, en fait, était bien révélateur. Pour finir, en fait, je souhaite parler du fait que toutes ces expériences, en fait, étaient bien révélatoires pour comprendre que le même niveau de connaissance qui a été le même niveau de connaissance chez les élèves issus de classes populaires ne produisent pas les mêmes attitudes et les valeurs chez les élèves. L'un des élèves, par exemple, qui m'a affirmé qu'il détestait l'école après le lycée, qu'il n'avait pas l'intention de continuer à faire des études supérieures, et l'autre avait un sentiment d'indignation à propos de leur manque de connaissances en matière de l'histoire. Dans ce sens-là, en fait, la situation même de l'entretien et mon interaction avec des élèves est révélatrice pour saisir les prises de position par rapport à l'institution scolaire et aussi à la culture savante et légitime, entre guillemets. Avant de conclure, objectiver la relation d'enquête et la réflexivité est indispensable à comprendre en fait toutes ces prises de position qui m'ont aidé à construire l'objet d'étude. Voilà.
Merci. Beaucoup désolée d'être un peu sèche sur le temps.
Merci. Je vais essayer de me rapprocher. Merci. Ça marche ? Vous m'entendez ? Bon. Ah oui, je vais. Voilà. Donc, je vais vous parler de. Alors, d'abord, merci aux organisateurs, organisatrices du colloque. Je suis très contente d'être là et ravie de vous parler donc de mon enquête sur la réception de 50 nuances de grès. Au croisement du genre et de la classe, et je vais voilà, essayer de faire un petit retour réflexif sur cette enquête. Alors, pour ceux et celles qui auraient échappé au phénomène, donc 50 Shades of Grey, 50 nuances de grès, c'est au départ une fanfiction de Twilight qui a été écrite par une productrice de télévision britannique qui s'appelle Erica Leonard James. Elle a écrit plusieurs versions en ligne sur un blog, et puis la trilogie a été publiée en version papier en 2012. C'est un best-seller mondial, plus de 150 millions d'exemplaires vendus au niveau mondial, un peu plus de 7 millions aujourd'hui en France, donc c'est énorme. Ça a été adapté au cinéma en 3 volets qui ont chacun connu un gros succès. Essentiellement donc auprès des femmes auxquelles la trilogie s'adresse. On entend souvent le terme dépréciatif de « mommy porn » pour donc littéralement « porno pour maman », pour qualifier le genre littéraire auquel appartiendrait 50 nuances de grès. Bon, c'est évidemment un terme médiatique qui a été, qu'on peut largement démonter. Eva Illouz a écrit un très intéressant livre sur 50 nuances de grès, et elle montre que les romans reprennent en réalité les ingrédients des romances gothiques qui sont plébiscités par les femmes depuis le 19e siècle. Ces romans, ce qui met généralement en scène une héroïne qui tombe amoureuse d'un homme séduisant, mais en même temps inquiétant, voire brutal, et qui se laisse petit à petit l'homme apprivoiser et qui finit par se dévouer corps et âme à sa dulcinée. C'est le schéma des harlequins, grosso modo, donc qui représente ce genre depuis les années 50 aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, et 70 en Europe. Donc 50 nuances de grâce, c'est une version canonique de ce schéma, pimentée par un contenu érotique, puisque l'histoire met en scène une jeune vierge, Anastasia Steele, qui tombe amoureuse d'un milliardaire, Christian Grey, un homme très séduisant, mais aussi très mystérieux et brutal. Il est adepte du BDSM. Mais Anna ne veut pas devenir sa soumise. Et attention, spoiler, à force de persévérance et d'attention, elle va réussir à le convertir à l'amour romantique. Ils auront même des enfants. Alors, ma recherche, elle n'est pas tant focalisée sur l'analyse du texte en lui-même. Eva Illouz, voilà, l'a très bien fait dans ce petit livre que je conseille à toutes celles et ceux que ça intéresse. Mais donc, je m'intéresse à la réception des livres et du film. Et des films. Donc, je mène une ethnographie en ligne depuis 2015 sur des groupes de discussion consacrés à 50 nuances de Grey sur Facebook, sur deux groupes en particulier, l'un qui a été actif au début de l'enquête, qui n'est plus aujourd'hui, et l'autre qui est toujours actif. Donc, les données sont appuyées. Je suis sur d'autres groupes, mais voilà, qui sont beaucoup moins actifs, donc sur lesquels je recueille moins de données. Les données, elles sont recueillies par archivage régulier des conversations sur des périodes mensuelles que je choisis de manière aléatoire et par immersion quotidienne dans l'un des groupes, donc qui est le plus actif, celui qui est toujours actif aujourd'hui. Et puis, je complète ces données par des entretiens. Pour l'instant, 5 entretiens. J'ai que 5 entretiens pour l'instant parce que j'ai énormément de mal à avoir des entretiens. On pourra y revenir dans les questions si vous voulez. Et puis des observations participantes lors du moment où elles se rencontrent. Ces groupes sont fermés, c'est-à-dire que leur contenu n'est accessible qu'aux membres, et ils sont fréquentés en très grande majorité par des femmes plutôt jeunes, blanches, qui vivent en province, qui sont mariées ou en couple hétéro, avec des enfants, et qui occupent des emplois peu ou pas qualifiés. Ces caractéristiques socio-professionnelles, elles correspondent aux données recueillies dans une enquête Canty qui est menée par Magali Biget, qui porte sur le profil et les motivations du lectorat de 50 nuances de Grey. Alors, moi, mon objectif avec cette enquête, c'est d'analyser de manière qualitative la réception de cet objet en tant qu'expérience sociale. Et donc, je vais vous présenter là mon terrain essentiellement à partir des questions de recherche qu'il sous-tend et dans une perspective réflexive. Donc je vais commencer par me situer, par dire d'où je parle, ce qui m'amènera à parler de la manière dont est née l'idée de cette enquête. Et puis je vais ensuite montrer la manière dont j'articule dans cette recherche la question des rapports de pouvoir dans la production des savoirs féministes, grâce notamment aux cultural studies féministes auxquelles je me réfère de façon centrale. Alors, d'où je parle, bien, moi, je suis issue d'un milieu populaire et rural. Hein, mes parents sont ouvriers, non diplômés. Je suis la première bachelière de ma famille. Donc, j'ai été socialisée comme une fille des classes populaires. Et dans ce cadre, j'ai consommé, durant mon enfance et mon adolescence, beaucoup de films et de séries pour filles, principalement sur la télévision du salon familial. Donc c'est comme ça que j'ai construit ma culture personnelle, avec beaucoup de joie et des plaisirs variés, avant d'intérioriser par la voie de l'école puis de l'université qu'il s'agissait de goûts illégitimes qu'il fallait que je mette à distance. Donc j'y suis revenue plus tard, à ces objets illégitimes, en tant que chercheuse et aussi en tant que spectatrice, amatrice. Mais pour être honnête, il subsiste chez moi toujours une zone de doute. Est-ce bien raisonnable d'aimer et de défendre le fait d'aimer les téléfilms de Noël ou les émissions de Christina Cordula? Et c'est en fait cette tension, ce doute qui s'est manifesté quand mes deux jeunes sœurs m'ont dit qu'elles avaient lu et aimé 50 nuances de Grey. Et là, je me suis entendue leur rétorquer spontanément tout le mal que je pensais a priori, en tant que féministe, de cette histoire débile de soumission féminine. J'en avais pas lu une ligne, évidemment, à l'époque. Avant de me raviser, en me demandant si j'étais pas là en train de reproduire une forme de mépris de classe consistant à me distinguer de mes propres sœurs sur la base de mon féminisme supposément plus tangible, réel, crédible que le leur. Et donc ça a été le point de départ en fait de cette recherche qui est donc intrinsèquement liée à des questionnements et à des émotions de classe intime. Alors on sait que la distinction culturelle, elle se construit désormais moins sur le mépris affiché pour la culture populaire que sur la capacité des individus à varier les registres culturels, mais les pratiques connotées comme féminines, les pratiques populaires féminines, restent largement indignes. Pour le dire autrement, la culture féminine populaire est vectrice de ce que Toril Moy définit comme un capital symbolique négatif, la plupart du temps associé au féminin. Et je le constate très régulièrement quand je parle de cette recherche autour de moi, à mes collègues, à mes amis. Et je me sens d'ailleurs assez souvent obligée de me justifier en affirmant que non, non, moi je ne suis pas moi-même une admiratrice de Christian Grey. Alors mon enquête, elle se situe dans la filiation des ethnographies féministes qui s'inscrivent dans le champ des cultural studies et qui se développe à partir du milieu des années 80 pour comprendre les raisons qui poussent les femmes de classe moyenne et populaire à consommer et à défendre les produits culturels qui leur sont spécifiquement adressés. Donc la romance, les soap-opéras, les mélodrames féminins, etc. Et aussi, donc, ces enquêtes, elles cherchent à décrypter les mécanismes de décodage de contenu que ces femmes mettent en place. Alors, les cultural studies féministes, elles ont aussi un versant plus théorique, plus épistémologique, et les chercheuses qui s'inscrivent dans ce champ se posent en fait assez tôt, dès les années 80, la question des rapports de pouvoir, en particulier sur le plan de la classe, qui s'exercent entre les chercheuses et les femmes subalternes sur lesquelles elles enquêtent. Et là, je vous ai mis la couverture d'un livre coordonné par Beverly Skeggs, où elle demande à plusieurs chercheuses de revenir de façon réflexive sur leur terrain. Dans un article intitulé « The Politics of Feminist Research Between Talk, Text and Action », et publié dans Feminist Review en 82, Angela McRobbie critique ce qu'elle appelle le féminisme missionnaire. C'est moi qui traduis le terme qu'elle utilise, c'est « recruitiste », qui consiste à appliquer sur les expériences des femmes subalternes les concepts issus du féminisme blanc et bourgeois, en lieu et place de considérer leur capacité à mener des luttes spécifiques de façon autonome au sein des espaces qu'elles occupent. En d'autres termes, voilà, c'est un questionnement intersectionnel. Cette posture de missionnaire, elle est justement reprochée à Janice Redway, donc, dont vous avez vu la couverture du livre tout à l'heure, Reading the Romance, qui est devenu un classique de ce type d'enquête et qui est aujourd'hui assez connu, y compris dans l'espace français, même si le livre n'a pas été traduit. Mais on connaît moins en fait, les critiques qui sont adressées à Janice Redway à propos de ce livre. Et justement, un certain nombre de critiques utilisent ce terme de missionnaire pour critiquer son travail. Dans ce livre, Redway, elle dit que, en substance, la lecture de romance est possiblement contestataire dans la mesure où les femmes qui revendiquent cette pratique dérogent momentanément à leur rôle social, d'épouse, de mère, etc. Puisque pendant qu'elles lisent, elles ne font pas la vaisselle, en gros. Mais ces romans contribuent dans le même temps, possiblement, à renforcer le patriarcat, dans la mesure où ils entretiennent le mythe du bonheur conjugal et où ils offrent aux femmes des éléments de compensation imaginaire aux frustrations qu'elles vivent dans la sphère domestique. Et donc, ces romans possiblement les empêchent de prendre conscience de leur aliénation. Et c'est cette posture qui va justement être taxée de missionnaire, notamment par Yen Hang, qui est une autre chercheuse qui se situe dans ce courant des cultural studies, dans sa recension du livre de Redway, qui paraît en 88. Et donc, Yen Hang, elle dit qu'en se concentrant sur les possibles effets pervers de leur lecture, au lieu d'en envisager les potentialités politiques, Janice Redway, non seulement elle exerce une violence de classe sur ses enquêtés, mais elle échoue aussi à saisir les mécanismes du plaisir éprouvés par les lectrices de romance, ainsi que les enjeux politiques qui sont liés à ce plaisir. Alors, pour revenir à mon enquête, le fait d'avoir le fait d'avoir accès à une parole publique et de raconter la vie de ces femmes me donne un pouvoir sur elles. Hein, la manière dont je les classifie, la manière dont je qualifie leurs expériences participe de leur représentation dans l'espace public. Hein, il est donc crucial de thématiser ce rapport de pouvoir et d'adopter une méthodologie réflexive qui vise à produire ce que Beverly Skeggs appelle des connaissances responsables, c'est-à-dire des connaissances qui n'alimentent pas les représentations négatives des femmes des classes populaires et qui ne contribuent pas à leur dévalorisation culturelle, sociale, économique, etc. Cette grille de lecture intersectionnelle, elle me conduit donc à faire le choix de visibiliser et de légitimer les investissements culturels des amatrices de 50 nuances degrés, en essayant de comprendre notamment la manière dont ces femmes créent à travers ces investissements leur propre système de valeurs. Beverly Skeggs, dans un article qui vient d'être traduit, dans la revue Poly, elle parle de pratiques alternatives de la valeur mises en place par les sujets qui sont exclus des systèmes de valeurs dominants. La valeur doit être entendue dans son sens à la fois matériel et symbolique. Je me suis par exemple aperçue de mon côté que les forums de discussion sur lesquels j'enquête sont des lieux intimes qui permettent aux femmes qui y participent de se protéger des jugements dévalorisants dont elles ont tout à fait conscience et qu'elles expérimentent régulièrement lorsqu'elles se déclarent en tant que fans de 50 nuances degrés en dehors de ces groupes. Et grâce à cette intimité qu'elles créent, elles peuvent notamment s'exprimer en tant que sujet sexuel. Donc ça veut dire parler de sexualité, donc en lien évidemment avec l'histoire, mais aussi tenir des propos obscènes, s'offrir entre elles des sextoys, voire mimer entre elles des scènes érotiques tirées des films lors des soirées qu'elles organisent. Et ensuite poster les vidéos et les photos sur les forums. Donc elles peuvent faire tout ça sans engendrer de répression. Et c'est l'espace intime qu'elles créent qui leur permet ça. Elles ont dans le même temps elles-mêmes des stratégies de distinction par rapport à tout un tas d'attitudes qu'elles considèrent comme vulgaires ou déplacées et qu'elles repèrent notamment chez d'autres groupes de fans qui vont être considérés comme hystériques, ce qu'elles ne veulent surtout pas être. Donc, en d'autres termes, elles sont, ces femmes, en quête de respectabilité, là aussi pour reprendre un concept de Beverly Skeggs, et ces espaces leur permettent de conjuguer respectabilité et sexualité, ce qui n'est pas possible de faire à l'extérieur. Je me suis aussi aperçue que dans les entretiens, beaucoup d'entre elles relient la découverte de la lecture de 50 nuances degrés à une prise de conscience plus ou moins brutale d'une dilution d'elle-même dans la vie familiale. Et ces ruptures peuvent parfois être violentes et elles entraînent un certain nombre de renégociations de certains aspects de leur vie, tant au niveau sexuel, conjugal que subjectif. Et plusieurs d'entre elles font le récit d'une reprise de contrôle sur l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, sur leur corps, sur leur sexualité, notamment après, pour plusieurs d'entre elles, avoir subi des violences. Et donc, ce, grâce à 50 nuances degrés. En tout cas, c'est comme ça qu'elles construisent le récit. Donc, leurs investissements culturels sont des lieux où elles produisent un regard valorisant sur elles-mêmes, tout en mettant en place des dispositifs de contrôle d'elles-mêmes, notamment dans le rejet du vulgaire et dans la recherche de respectabilité. Alors, mes observations, elles m'ont aussi conduite à redéfinir ce que j'entendais par capacité d'agir. en commençant l'enquête, j'espérais en effet secrètement, plus ou moins secrètement, trouver des traces de lecture oppositionnelle, de résistance, face à un texte que je considérais quand même comme extrêmement normatif et très douteux sur le plan féministe. Mais évidemment, ça c'était un fantasme, et la réalité c'est qu'elles adhèrent globalement au texte, dont elles fournissent des interprétations variées, mais il se dégage quand même un consensus assez large pour dire que c'est le genre d'histoire d'amour dont rêvent toutes les femmes, et que Christian Grey est l'homme absolument idéal. Donc j'ai été d'abord un peu décontenancée par ce constat, en me disant « qu'est-ce que je vais faire de ça ?» En fait, elles sont, voilà, elles adhèrent, elles ne sont pas du tout résistantes. En réalité, j'ai trouvé alors, des réponses théoriques, épistémologiques, chez l'anthropologue Saba Mahmoud, dans son étude sur les femmes qui sont engagées dans les mouvements religieux de piété en Égypte. Elle montre que les pratiques pieuses de ces femmes, qui sont habituellement interprétées comme des actes de soumission à l'ordre patriarcal, peuvent être analysées dans une logique foucauldienne ou butlerienne comme des techniques de soi, des actes de transformation de soi qui visent à atteindre un idéal de moralité et de vertu. Alors, et donc comme l'expression de leur capacité d'agir pleine et entière. Alors, bien sûr, Mahmoud parle d'un contexte très différent du mien, mais ce que montre ce travail important, c'est que la capacité d'agir des subalternes, des dominés, ne s'actualise pas nécessairement dans la résistance aux normes, dans l'opposition à l'ordre social, mais aussi dans la manière dont on habite ces normes, voire dans la façon dont on travaille à leur maintien. Donc, plutôt que d'interroger les fans de 50 nuances de Grey au prisme de la dichotomie aliénation-émancipation qui est en fait habituellement assez couramment mobilisée dans ce genre d'enquête, j'essaie moi de comprendre quelle signification elle donne à la fois au texte et à leurs pratiques et à leurs investissements culturels et de quelle façon ça participe à construire leur subjectivité. Donc pour conclure très rapidement, donc il n'y a aucune neutralité ou objectivité de ma part dans cette enquête. Je ne prétends pas du tout produire un savoir objectif sur elle, mais un savoir situé. Et ma trajectoire sociale engendre un sentiment assez fort de proximité à l'égard de ces femmes, hein, qui pourraient être mes sœurs ou certaines de mes amies. Et les émotions de classe que je ressens jouent un rôle déterminant dans la manière dont je conduis mes analyses. Et elles m'invitent notamment à rendre compte des expériences de ces femmes d'une manière aussi juste et délicate que possible, ce qui ne revient pas, évidemment, à abandonner toute posture critique. Je vous remercie.
Pour leur gestion, à la seconde près.
Vous avez un micro. C'était une question pour Delphine. Est-ce que tu peux peut-être développer l'analyse tirée de politique de la piété ? Parce que moi, je me suis demandé pourquoi... Du coup, est-ce que c'est pas un consentement à la domination comme on en observe, au sens où c'est des femmes qui peuvent ne pas voir en quoi elles doivent résister pour pouvoir avoir une expérience satisfaisante de leur vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un sens à la résistance et que c'est des techniques de soi certes, mais qui ne vont pas dans un sens d'une forme de résistance. Enfin, où je suis pas sûr d'avoir, ou alors j'ai pas très bien compris ce qui fait qu'on peut potentiellement louper un truc là-dedans ou voilà.
Une toute petite question pour Madame Chedaleux. Vous avez dit que vous avez eu des difficultés à avoir des entretiens. En fin de compte, pourquoi ?
J'ajoute mes questions. Je remercie nos deux intervenants. J'avais lu les textes bien sûr avant, et il y a des parallèles qui apparaissent à la lecture des textes qui sont peut-être un peu moins évidents à l'oral parce que les intervenantes ont dû aussi couper à cause de moi. Donc j'en profite aussi pour les relancer peut-être sur ces éléments. Dans un premier temps, j'abonde dans le sens des deux questions du coup sur les conditions de. J'ai l'impression de tenir un truc bizarre. Je le pose sur les conditions de recrutement des enquêtés. Alors situation complètement différente, mais moi j'avais fait une enquête pour le ministère sur les émissions de relooking et sur la question des réceptions des émissions de relooking. J'y pense parce que tu parlais de Christina Cordula et on avait eu le phénomène inverse. C'est-à-dire qu'on avait dû bloquer le nombre d'enquêtés puisqu'il y avait, sur les appels sur les réseaux sociaux, beaucoup, beaucoup de demandes de réponses. Et notamment des femmes, là où on a eu beaucoup plus de mal à recruter des enquêtés et qui se cachaient derrière la logique de couple ou qui camouflaient leur consommation du programme ou de l'objet par le lien avec une femme, alors leur compagne, leur sœur, etc. Donc
Je me demandais comment tu pouvais expliquer ça au regard d'autres enquêtes. Alors, je ne sais pas si l'enquête sur les émissions de relooking est tant que ça symptomatique ou si sur les autres enquêtes que tu peux prendre, tu as des phénomènes différents. Donc c'était ma première question. J'en avais une autre, tu vois, si tu as le temps, sur les stratégies de modération des forums, puisque tu montres en fait que finalement ces forums forment des lieux privés, ou en tout cas des lieux construits et perçus comme suffisamment privés et intimes pour s'y voir déployer des stratégies de mise en scène, puisque c'est pas seulement, tu disais même qu'elles se prennent en photo et elles vont poster ça sur le forum, donc il y a quand même quelque chose de la construction collective, communautaire, donc voilà, question là-dessus. Et une question pour Elif, aussi sur la situation d'enquête, mais c'est la session, sur, alors deux choses, sur la complicité, bon, je repose parce que j'ai encore l'air bizarre, sur la complicité avec le corps professoral, voilà, si tu pouvais développer un petit peu ces éléments-là, et c'est lié à ma deuxième question qui était ton inscription peut-être perçue en tant que femme dans la situation d'enquête, qui a été assez peu développée à l'oral, mais j'ai souvenir que tu en disais quelques éléments de plus dans ton texte, donc peut-être à faire partager. Je ne sais pas qui... Bon, la gauche toujours.
Alors, à propos de la complicité avec le corps professoral, c'est le biais qui surgit notamment par le fait de passer par des enseignants pour interviewer les élèves. Et en fait, même si dans la consigne, j'ai répété plusieurs fois que je n'étais pas là pour effectuer un contrôle de connaissances pour eux, c'était quelque chose qui apparaissait très, 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 très régulièrement. Et en fait, c'était bien visible, cette différence était bien visible avec des élèves que j'ai interviewés en dehors du cadre scolaire et des élèves que j'ai interviewés dans l'institution scolaire, à l'école, parce qu'il y a un certain nombre d'entretiens que j'ai pu faire à travers des interconnaissances des parents des élèves et aussi d'autres connaissances à travers des liens d'amitié avec des élèves. Et ceci, en effet, à chaque fois qu'on est entré dans l'institution scolaire et on a le fort risque de se faire prendre vraiment la complice du corps professoral en tant qu'individu adulte. Mais comme j'ai déjà dit, mobiliser le statut étudiant, ça marche parfois avec certains élèves, surtout avec des filles qui sont très intéressées par mon parcours scolaire. Comme j'ai donné certaines références à propos du succès relatif des filles, il y en a qui me sollicitaient par exemple pour me poser des questions, comment j'avais préparé le concours. Et j'ai aussi mobilisé cette expérience qui est commune, qui était très qui était en manière d'accéder aux élèves et dépasser ce type de distance. Et la deuxième, sur mon inscription en tant que femme dans l'école. Et en fait, comme j'ai déjà dit, avec certains élèves qui montraient une certaine distance sociale qui est très ostensible avec l'école, c'était très difficile de communiquer avec eux. Et de l'autre côté, avec certains enseignants d'histoire, notamment avec deux enseignants d'histoire qui sont du sexe masculin, objectivement, en fait, ils accumulent les propriétés sociales objectives et des fois, ils me prenaient vraiment comme une de leurs élèves à qui ils ont la mission de transmettre un certain nombre de connaissances. À chaque fois, par exemple, ils me demandaient « Est-ce que tu as compris ? Est-ce que tout est clair ?» En me citant, par exemple, des sociologues pour montrer, en fait, leur connaissance en la matière et pour accentuer leur appartenance disciplinaire très, très dominante en face de la sociologie, qui est souvent le cas en Turquie. Oui, je pense que c'est tout.
Oui, merci pour les questions. Je vais faire dans l'ordre sur la question de la résistance. Pourquoi finalement, si j'ai bien compris ta question, pourquoi chercher des traces de résistance chez ces femmes? C'est en gros ça. En fait, c'est une question. ces questions sur résistance, capacité d'agir, etc., elles sont essentiellement liées à la façon dont ces femmes, elles sont perçues dans l'espace public, comme d'une manière générale les publics de culture populaire et en particulier les publics féminins, c'est-à-dire de façon extrêmement négative, et en particulier au sein du féminisme. Il y a eu énormément de critiques, pas mal de critiques féministes des films, plus que des livres d'ailleurs, parce que les féministes en général, elles n'ont pas lu, et d'ailleurs les critiques qui sont sur Internet, etc., féministes assez virulentes, disent bon, on n'a pas lu les livres, on ne va pas s'emmerder à lire les livres, on a vu un film, ça nous a suffi. C'est les critiques extrêmement virulentes qui accusent les films de participer à la culture du viol, etc. Donc ça pose quand même des questions d'épistémologie féministe importantes, parce que quid des lectrices et des spectatrices et des amatrices de 50 nuances de Grey, il faut se poser la question de leur positionnement par rapport au texte. Voilà, c'est une question épistémologique. Sinon, ça veut dire que, on considère qu'elles consentent à leur propre domination, à la culture du viol, etc. Ce qui est évidemment pas le cas. Et d'ailleurs, elles ont toute une réflexion sur la violence, sur la gestion de la violence dans les livres et dans les films. Sur la difficulté à obtenir des entretiens, c'est lié à cette image très négative qu'elles renvoient, qu'elles perçoivent très bien. Et donc elles ont très peur, ça c'est une première raison, elles ont peur de parler d'elles et de parler d'elles en tant que fans de 50 nuances de Grey, parce qu'elles ont peur d'alimenter l'image négative qui circule d'elles-mêmes. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce sont des femmes de classe populaire à qui on s'intéresse pas. Je veux dire, j'ai plusieurs cas comme ça de filles que j'essaie à qui j'envoie des messages, etc., que j'ai rencontrées, mais qui ne me répondent pas. Elles me répondent pas parce que je pense que ça. Et puis quand je les ai rencontrées, enfin je pense à une notamment. Lors d'une rencontre collective chez l'une d'entre elles, et je lui ai dit, écoute, tu habites en région parisienne, si ça t'intéresse, on peut faire un entretien. Elles savent évidemment qui je suis, que je suis évidemment outée en tant que chercheuse, etc. Et donc, elle m'a dit, oh là, tu sais, moi, j'ai rien à dire. Le truc classique, quoi, j'ai rien à dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis, donc, elle ne me répond pas. Ça fait partie des difficultés. C'est pas la seule qui me répond pas. J'ai aussi eu à partir du moment où je me suis outée en fait comme chercheuse, notamment sur le groupe le plus actif, parce que j'y suis rentrée sans me outer, mais je savais pas trop ce que j'allais faire moi de cette enquête au début, donc je me suis inscrite sur ces groupes et puis j'ai commencé par y aller de temps en temps, regarder, observer. Bon. Et puis, il y a un moment où c'est devenu un peu plus sérieux pour moi. Donc, je me suis, évidemment, pour des questions d'éthique et puis pour des questions méthodologiques, je me suis signalée en tant que chercheuse. Et là, il y a eu toute une discussion de la part des modératrices du forum le plus actif. Puisque pour d'autres forums, j'ai pas eu de réaction et de réponse. Mais toute une discussion pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire de moi, quoi. Parce que elles sont extrêmement méfiantes, en fait. Et c'est lié à la façon dont elles gèrent le forum, c'est-à-dire que, pour le coup, les forums qui sont tous ceux sur lesquels je suis et tous ceux que je vois, ce sont des forums fermés. Et il faut un peu quand même montrer patte blanche. Notamment, elles acceptent pas les hommes, sauf exception. C'est-à-dire vraiment les hommes qui montrent patte blanche, les conjoints d'eux, les maris d'eux. parce qu'elles ont eu des problèmes de harcèlement sexuel au sein des groupes, des hommes qui étaient là pour le, ben voilà, les harceler, des problèmes de signalement à Facebook de, pour contenu pornographique, etc. Donc certaines d'entre elles ont vu leur compte fermé. Donc elles sont, en fait, elles sont la difficulté d'accès que j'ai à elles, c'est lié à aux jugements extrêmement négatifs qui sont voilà émis sur elles, qu'elles perçoivent et dont elles enfin qui leur causent des troubles et des difficultés quoi, enfin voilà. Et d'où du coup ça enfin je rebondis aussi sur ta question parce que elle c'est vraiment totalement conscient de créer des espaces d'entre-soi bienveillants. L'une des, enfin, il y a des règles évidemment sur ces forums qui sont donc émis par qui sont dictées par les administratrices. Et les règles, en gros, les règles, les normes les plus importantes, c'est, enfin, centrales, c'est la bienveillance, l'absence de jugement négatif entre les participantes et la totale, le fait que le forum doit être hermétique. Rien ne doit sortir du forum. C'est la condition vraiment pour créer un espace safe, en fait, hein, un espace d'entre-soi qui leur permette de poster tout un tas de vidéos, photos, etc. d'elles. Qui ne pourraient absolument pas sortir, qui les mettraient vraiment dans l'inconfort.
On n'a pas le temps, mais du coup, je prolonge. En trois secondes, mais est-ce que ce n'est pas la dimension porno ou supposément porno ou la construction porno de rapport à la sexualité qui fait peut-être que par rapport aux émissions de looking, je suis désolée, je fais le comparatif, mais qui bloque aussi peut-être une partie de la...
Ah ben, ça fait complètement partie de... Bien sûr, ça fait complètement partie des raisons pour lesquelles elles sont ultra stigmatisées. Ouais.
C'est bon pour tout le monde. Je remercie encore mes intervenants, plus généralement tous les intervenants et intervenantes de la journée.